Quand Dieu désire nous emmener plus loin. Et la foi est vraiment un élément important là-dedans. C'est ce que Dieu valorise, la foi ou la confiance en lui. Parce que la foi, c'est la confiance dans qui il est. Et c'est seulement avec cette ouverture de cœur, cette position de cœur, qu'on peut recevoir ce qu'on ne peut pas comprendre auparavant ou autrement. Qu'on peut recevoir ce qu'on ne peut même pas concevoir. Mais on peut le recevoir si on a ce cœur ouvert. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, si tu t'approches de Dieu croyant que Dieu n'est pas content avec toi, ça ne plaît pas à Dieu. Dieu est en train de dire à travers ce passage-là, je veux que mes enfants croient que je veux les récompenser, que je désire les amener plus loin. Et je veux qu'ils s'approchent de moi avec cette idée en tête, et non avec l'idée, « Oh Seigneur, tu dois être fatigué de moi. Oh Seigneur, tu dois... Regarde ce que j'ai fait encore et regarde ce que j'ai fait encore. » Cette attitude-là, si je me fie au verset, ne plaît pas à Dieu. Mais l'attitude qui dit, « Seigneur, je veux plus. Je veux te découvrir. » C'est plus dans ce sens-là que ça plaît à Dieu. Et il veut nous récompenser infiniment plus que ce qu'on peut demander ou penser. Alors, ce matin, on va parler du salut. Pas une approche théologique, une approche qui est beaucoup plus relationnelle. Parce que c'est ce que Jésus nous a présenté lorsqu'on va dans les Évangiles. Dieu n'a pas ajouté de théologie concernant Dieu, ou Jésus plutôt n'a pas ajouté de théologie concernant Dieu, mais a apporté vraiment quelque chose de différent. Et un jour, j'étais dans un resto alors que j'étais en mission, et... J'étais avec deux entrepreneurs, deux chefs d'entreprise. Et c'était intéressant la conversation. L'un dit à l'autre, il dit, tu sais, quand tu dis à un employé, tu lui donnes une consigne et qu'il te répond, ouais, ouais. Ça veut dire, il n'a rien compris. Quand tu expliques au complet à un employé qui fait, ah, oui, là, il a compris. J'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est exactement la même chose avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne nous transforme pas en profondeur, ben c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on est passé à côté. C'est ça que ça veut dire. Surtout si on l'approche d'une manière théologique. Alors, cette petite leçon, je l'ai toujours retenue. Et je l'ai toujours à l'esprit. Lorsqu'on dit « oui, oui », je me dis « ok, j'ai communiqué quelque chose, mais ça ne veut pas dire que l'autre personne a compris. » Quand je vois une réaction de l'autre personne, elle a compris. Et récemment, j'entendais encore cette notion-là. « Oh, je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je veux faire, etc. » Cette notion qu'on retrouve dans Romains chapitre 6. J'aimerais vous donner un devoir cette semaine. Parce que je ne crois pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre réalité. Vous savez, trop souvent, avec la parole, c'est comme si on mange les patates et les légumes au déjeuner. On mange la sauce durant l'heure du break dans l'avant-midi. On mange le steak à midi. On mange ensuite la salade dans l'après-midi. Puis le dessert, on le mange comme lunch. Juste avant le souper. Et on sépare le repas de telle manière que finalement, on ne remarque plus le mariage de goûts et la subtilité des goûts, parce que tout ça s'est séparé. Et trop souvent, la parole de Dieu, lorsqu'on a une méthode, c'est ce qui arrive. J'aimerais vous donner comme devoir que vous puissiez relire Romains 5, c'est les patates et les légumes. Romains 6 et 7, c'est vraiment le steak. Romains 8, c'est le désert. Mais vous les lisez, non-stop. 5, 6, 7. Premièrement, lisez 5, 6, 7. Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Vous pouvez aller jusqu'à 10 fois. À 10 fois, vous arrêtez. Ensuite, vous le lisez une fois, Romains 5 à 7, et vous incluez 8. Et tout à coup, il se peut fort bien que vous dites, « Ah, ben! Ah, c'est ça que Paul voulait dire. OK, on n'est plus esclave du péché. » On marche maintenant par l'Esprit. Non, je vous conseille. C'est ce que je fais. Quand il y a des passages qui me semblent, Seigneur, je n'ai pas encore saisi, je les lis et relis et relis et relis non-stop. Mais je prends tous les chapitres qui concernent ce passage-là, parce que les chapitres, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a mis ces subdivisions-là, c'est les gens qui ont créé le canon des Écritures pour faciliter le repérage dans les Écritures. Ils ont mis des chapitres, des versets. Mais trop souvent, on coupe, on lit une journée l'introduction de Paul, le lendemain, on lit le premier élément qui amène à qu'on puisse évaluer, le surlendemain, il amène un deuxième élément, et ainsi de suite. Et c'est un peu ce qu'il fait là-dedans. Et le salut est beaucoup plus grand que ce qu'on pense, ou le salut est beaucoup plus glorieux, je dirais ça de cette manière-là. Vous savez, en général, les héros On aime nos héros lorsqu'ils nous font sentir en sécurité. Donc, en général, on aime nos héros, les héros de la foi, lorsqu'ils sont morts, malheureusement. Parce que lorsqu'ils sont vivants, il y a des choses qu'on n'aime pas dans leur vie. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va présenter nos héros, on va présenter une certaine version de nos héros qui est épurée, qui est plus sûre, qui est moins offensive. Un exemple, Billy Graham. On se souvient comment Billy Graham faisait des appels. Avez-vous la paix avec Dieu? Êtes-vous en paix avec Dieu? Des appels extraordinaires. Mais on oublie d'autres aspects de la vie de Billy Graham, qui un jour, dans le sud des États-Unis, a demandé aux responsables de la sécurité, si vous n'enlevez pas ces barrières-là qui séparent les Noirs des autres, vous faites la croisade sans moi. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nationalité. Et ça prenait quelqu'un de courageux pour le dire. On connaît Martin Luther King. Une citation de Martin Luther King. J'ai un rêve! J'ai fait un rêve, je suis allé sur la montagne. Et souvent, on cite 2-3 citations de nos héros de la foi. Mais on oublie que Martin Luther King, waouh, il est allé en prison. Il a souffert le mépris non seulement de ceux contre qui il se battait, mais il a souffert le mépris de ceux pour qui il se battait à son époque. Son message n'avait pas été compris, la vision n'avait pas été comprise. On le trouvait quelqu'un de subversif. Et on pourrait parler de plusieurs personnes de cette manière-là. Et quand on oublie, puis on épure la vie des héros, au point d'en faire presque une mascotte, vous savez, des fois, on a ces petits gadgets-là, ces petites poupées, on tire la corde, puis la poupée récite 2-3 phrases différentes. Mais j'ai même peur que des fois, on a fait la même chose avec Jésus. On a limité Jésus à quelque chose de bien simple, bien facile à comprendre. Et les citations de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres », le verset de la Bible le plus connu, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde ». On ne va pas plus loin. Et on oublie l'aspect violent de sa mission. Et ce matin, ce que je veux regarder, on va regarder tout à l'heure, plus tard, l'Évangile de Luc, le chapitre 15, où Jésus nous démontre quelque chose de vraiment intéressant. Mais avant ça, un jour, Jésus est allé à l'église. Puis il a vu que les non-juifs étaient exploités en se faisant offrir des sacrifices à prix exorbitant. Ce serait l'équivalent ce matin, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, à la porte de leur charger un prix de 50 ou de 100 $ pour rentrer à l'église. C'est-tu faisable? Hein? Quoi? Notre but, c'est de connecter les gens avec Dieu. Mais ça ressemblait à ça. Donc, les gens ne pouvaient pas se le permettre. Donc, les gens étaient exclus du culte du temple, parce que c'était devenu axé sur le profit et non sur la présence de Dieu. Et savez-vous ce que Jésus a fait? Il a posté ça sur Facebook. Non, sur Instagram. Jésus, c'est Jésus ce qu'il a fait. Il a commencé à bousculer les tables, il a arraché les guichets automatiques, il a détruit les terminaux de paiement, et puis il a tout renversé, il a chassé les collecteurs d'impôts. Et puis, il a déclaré, « Ma maison », il a cité un passage qu'on retrouve dans Ésaïe, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Wow! C'est ce qu'il a déclaré. Pourquoi? Pourquoi Jésus s'est fâché de cette manière-là? Pourquoi j'ai vu Jésus assembler si violent? Parce que la cour des gentils, cette partie où tous les peuples de la terre étaient invités à venir dans la présence de Dieu, ils l'ont occupée avec le marché aux bestiaux, où on vendait du bétail, des brebis, des moutons, des chèvres, des pigeons pour ceux qui avaient moins les moyens. Et on vendait ça à un prix exorbitant, parce que les gens qui devaient voyager 500 km te promenaient avec ton mouton, c'est pas mal fatigant. Donc, on arrivait avec de l'argent pour acheter. Et c'est ce qui se passait. Et le parvis des non-juifs était devenu le marché aux bestiaux. Alors, on voit clairement que Dieu veut que tous aient accès à sa présence. Donc, si on veut comprendre le salut, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui titille Dieu? Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui est proche de son cœur, qui le fait réagir? Et on le voit à travers ce que Jésus a fait, ce qui fait vraiment réagir Dieu, c'est de voir que ce ne sont pas toutes les nations, tous les peuples de la terre qui peuvent avoir accès à sa présence. Et vous savez, la suite, c'est vraiment intéressant parce que dans Matthieu, ici, on a lu le passage dans Marc, mais dans Matthieu, c'est vraiment intéressant. Parce que là, il y a tout ça, il y a le brouhaha, les gens ne sont pas contents, il y a la chicane dans la cabane, comme on dit au Québec. Et puis, tout de suite après, ça continue en disant, « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. » Et pendant qu'il était en train de prier pour des gens pour les guérir, il y a d'autres choses qui se passaient. Les chefs religieux étaient insultés. Ils vont voir Jésus, ils disent, « T'entends-tu ce qu'ils disent? » Parce que pendant que Jésus est en train de faire ça, qu'il y avait le brouhaha, il y a des enfants qui couraient partout, qui dansaient, qui disaient, « Hosanna au plus haut des cieux! » et qui louaient Dieu dans le temple librement. Ils avaient senti que Jésus leur apportait cette liberté. Alors, les chefs religieux commencent à se plaindre parce que les enfants crient « Hosanna au fils de David ». Ils disent à Jésus, « Attends-tu ce qu'ils disent, ce qu'ils sont en train de dire? » Et Jésus leur répond, « Oui, vous n'avez pas encore compris cette parole-là. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Donc, non seulement Dieu veut que toutes les nations aient accès à sa présence, mais Dieu veut que tous, sans exception, aient accès à sa présence. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, il y a un gars prénommé Dave. Il faisait un voyage en Inde. Et alors qu'il marchait dans l'une des rues les plus pauvres d'une des villes les plus pauvres d'Inde, tout à coup, il remarque un vieil homme aux longs cheveux gris, blancs, en costume traditionnel, qui était assis dans le fossé, entouré d'un nuage de mouches. La compassion du Seigneur le saisit, c'est un chrétien. C'est une histoire vraie. Dave a été saisi de la compassion de Dieu. Il est allé chercher de l'eau, simplement pour lui donner de l'eau à boire. Vous savez, lorsqu'il a commis ça, là, c'est comme s'il y a eu un crime social qui venait d'être commis. Il y a toute une foule qui s'est rassemblée en colère et qui s'est mise à crier, comme s'il venait de commettre un crime. Parce que le simple geste de donner de l'eau à cet homme-là a créé une émeute autour. Et il a dû expliquer, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il ne comprenait pas. Et le problème, c'est qu'il avait aidé cet homme. Pourquoi cet homme est en difficulté? Parce que la société, la religion indienne sont basées sur le karma et non sur la grâce. Donc, Dave avait joué avec le karma du gars, avec son destin. L'homme était dans le fossé parce qu'il méritait cette vie, selon les gens autour. C'était son karma, puis on ne plaisante pas avec son karma, au point de développer, de créer une émeute autour à cause qu'il a joué avec le karma du gars. Mais la grâce dit, c'est un enfant de Dieu, peu importe ce qu'il a fait, peu importe les problèmes dans lesquels il est, on doit lui offrir de l'eau. Donc, je ne veux pas de karma, je ne veux pas ce que je mérite, je veux la grâce. Et le salut, c'est vraiment ça. On a ce passage-là dans Éphésiens 2:8 qu'on connaît bien. Mais trop souvent, si on prend un verset à part, on perd le sens. Ici, on a ce verset-là. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Par la grâce. Waouh, super! Mais comment? Vers quoi? Qu'est-ce que j'y gagne? Ici, ça nous explique simplement que c'est une grâce de la part de Dieu d'être sauvé. Connaissez-vous l'émission Deuxième Chance à Radio-Canada? L'émission Deuxième Chance qui est à sa quoi? Troisième saison? Quatrième? Je ne sais pas. Pas sûr. OK. C'est quoi le concept des gens qui, à quelque part dans leur vie, ont été aidés? Ça leur a permis de se sortir de situation. Ça leur a permis d'avancer dans la vie. Qu'importe. Et qui n'ont jamais pu remercier les bienfaiteurs ou qui ont perdu le contact avec ce bienfaiteur-là qui leur a donné ce qu'on peut regarder comme une deuxième chance dans la vie, une poussée et leur permettre d'avancer dans la vie. Et ici, ça nous dit, dans Éphésiens 2:8, « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dieu ne nous a pas donné une deuxième chance de nous racheter. Le salut n'est pas une deuxième chance de nous racheter. Dieu nous a déjà rachetés. Je veux qu'on puisse vraiment comprendre. Pour comprendre ce verset-là, l'apôtre Paul a pris 4 versets pour expliquer. Ça, c'est le verset de conclusion de sa pensée. Et si on a l'habitude de prendre les patates au déjeuner, le steak à midi, puis la sauce du steak au break, et puis le dessert en fin de soirée, on risque de ne pas trop saisir la notion d'un repas complet. Si on retourne avec ce que Paul a essayé d'expliquer, ça commence au verset 4, qui dit « Mais Dieu, qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, oui, on était morts en raison de nos fautes, on méritait ce que nos fautes avaient apporté. Il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Trop souvent, on confond le salut au fait de ne pas aller en enfer. T'es pécheur, tu mérites l'enfer, Dieu veut te sauver. Et je me souviens à l'époque, lorsque je suis rentré dans l'Église, c'était « il faut faire comprendre à la personne qui est pécheur, puis que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Et on apprenait ces notions-là, et on amenait les gens dans cette compréhension de notions en espérant que ça allait les conduire à Dieu, que le cœur allait s'ouvrir à Dieu. Mais ne pas aller en enfer, en réalité, c'est une conséquence du salut. Mais saviez-vous que ne pas aller en enfer n'est pas le but du salut? C'est juste une conséquence. Et comme j'avais dit récemment, trop souvent, on voit la vie, on voit le royaume de Dieu en noir et blanc. On voit les récits de l'Évangile en noir et blanc. Et on s'arrête à ce qui est évident. Waouh! Jésus nous a sauvés. Youpi! Je suis sauvé, je ne vais plus en enfer. C'est beaucoup plus grand que ça et c'est ce qu'on va essayer de comprendre cette année. Donc, ne pas aller en enfer, c'est une conséquence du salut, mais ce n'est pas le but. L'an passé, je suis passé sur un feu rouge. Il y avait un policier qui était là, en patrouille, qui me regardait. C'est combien de points d'inaptitude un feu rouge? 3. Exact. Vous avez bien appris vos leçons. Il m'a intercepté, mais il ne m'a pas fait perdre aucun point. Il m'a donné le montant minimum pour une infraction, puis il m'a même suggéré de la contester. J'ai trouvé ça bizarre. Je vous dis, c'est ça qui est arrivé. Maintenant, si je vous explique, j'ai expliqué le pourquoi. Premièrement, j'arrivais au feu qui n'était pas encore rouge, qui était vert, et il y a quelqu'un qui m'a brusquement coupé devant moi, arrivé à l'intersection au point où j'ai abaissé les yeux pour m'assurer que la manœuvre était sécuritaire. Et lorsque j'ai levé les yeux, la lumière était rouge. J'étais déjà engagé, je ne pouvais plus m'arrêter et elle est tombée. La lumière était jaune, pardon, et elle est tombée rouge. Je n'avais eu aucune idée combien de temps la lumière était tombée jaune parce que je m'étais concentré pour ne pas provoquer d'accident dans cette intersection-là. Je vois la lumière rouge, je connais l'endroit, je regarde, le policier est là. J'étais presque tenté de faire des babayes, mais je ne l'ai pas fait. Quand j'ai vu ça, tout de suite, un peu plus loin, je me suis garé et je lui ai simplement expliqué, écoute, oui, je suis passé sur un feu rouge, je le reconnais. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a coupé, malheureusement, je mérite un ticket. Et il est allé dans sa voiture, et il est revenu, puis c'est ce qu'il m'a dit, écoute, tu ne te fais pas perdre de points de démérite. Et la raison de la contravention, elle est différente. Je ne me suis pas arrêté assez à temps pour le feu rouge, en tout cas, un truc bizarre. Puis il me dit, tu peux la contester. Puis là, je le regarde, je dis, non, je n'ai pas l'intention de la contester, je suis passé sur un feu rouge. Je le reconnais, je vais payer. Je sais qu'il y a des circonstances atténuantes, mais merci, c'est super gentil, passe une belle journée. Donc, je n'ai pas reçu ce que je méritais. Pourquoi? Parce que le gars me connaissait, le gars m'aimait? Non, pas du tout, on ne se connaît pas. Parce que ce policier-là a usé de discernement dans l'application de la loi, c'est tout. Et il a décidé, ou peut-être qu'il a vu lui-même ce qui s'est passé, puisqu'il était là. Il a vu lui-même ce qui s'était passé. Les faits étaient que j'ai passé sur une lumière rouge. Ça, c'est le fait. Mais il a usé de discernement. Et on n'a pas besoin d'un Dieu qui use de discernement. Là, je veux parler du salut. On n'a pas besoin d'un Dieu qui use de discernement au niveau du salut, de circonstances atténuantes. OK, ouais, toi, ouais, moi, OK. Ben, au lieu de t'envoyer pour l'éternité en enfer, je t'envoie juste 32 000 ans parce que tu as moins péché que l'autre. Lui, par contre, ça va être au moins 40 000 ans en enfer. Ah, toi, t'es vraiment, t'as fait un gros effort dans la balance, là, t'as fait des bonnes actions par rapport au reste. 15 000 ans, c'est tout. J'ai pas besoin d'un Dieu qui use de discernement comment appliquer la loi. J'ai besoin de grâce. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est ça qu'on a besoin parce qu'on peut pas s'en tirer. Pas du tout. Dieu n'est pas une balance de justice. Je suis désolé. Si on fait assez de bonnes actions qui vont contrebalancer les mauvaises actions, ça va peut-être compenser. Dieu n'use pas de discernement dans l'application de la loi. Mais ici, Dieu n'est pas motivé par le discernement. Il est motivé par la compassion, par le discernement, je veux dire, le discernement de la loi. Ici, ce qu'on voit dans ce passage-là, Dieu est motivé par la compassion et par son grand amour. Et ça, il n'y a rien de comparable, il n'y a rien de plus puissant que son amour. Et si on continue, l'apôtre Paul continue. Donc, dans son grand amour, voici ce qui s'est passé. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il nous a fait asseoir avec lui en Jésus-Christ, avec lui, avec Dieu le Père, en Jésus-Christ. Et il a fait cela pour montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Si je relis ce passage-là, selon la compréhension que j'entends quelquefois, c'est comme si on lit « Dieu nous a attrapés par le collet juste avant qu'on ne tombe dans le trou de l'enfer et nous a dit « Hey, fais attention, va et ne pêche plus, sinon tu vas y goûter. » Non. Il nous a ressuscités. Ça ne parle pas de sauver. C'est plus grand que ça. Dieu nous a ressuscités parce qu'étant loin de lui, marchant dans la chair, on était morts spirituellement. Il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui. Wow! Et pourquoi il l'a fait? Pour démontrer l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il manifeste envers nous. Donc, le salut est tellement extraordinaire que même les plus grands spécialistes de la loi, ils ont été complètement dépassés. Jésus est venu personnifier qui était Dieu, le Père. Il est venu le révéler sur terre. Et je crois que Luc chapitre 15 est vraiment un bon exemple. Et dans Luc chapitre 15, les premiers versets, les chefs de la loi étaient dépassés, ils ne comprenaient pas. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens, les spécialistes de la loi, les plus grands théologiens, murmuraient en disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Les plus grands spécialistes de la loi se grattaient la tête pour dire, « Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit devant nous? » Alors qu'eux, les pécheurs, étaient subjugués par les paroles de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus venait apporter la réconciliation et non la condamnation. C'est un message tellement glorieux, ce message de l'Évangile, de la réconciliation, que l'apôtre Pierre dit dans son épître que même les anges veulent plonger les regards dans ce message-là. Ils désirent comprendre. Parce que les anges sont des serviteurs, ne sont pas des fils et des filles de Dieu. Ils sont des serviteurs et ils regardent Dieu dans son amour, sa bonté incroyable, la manifester envers ses enfants qu'il a créés. Les anges regardent puis ils disent, « Wow, ça nous dépasse. » Cet amour, cette relation-là que Dieu désire avec ses enfants, ça nous dépasse parce qu'ils sont de simples serviteurs au service de Dieu et au service de nous, ses enfants. Donc, les pharisiens étaient dépassés. Ils regardent ça. Puis, ça n'a pas d'allure. Tu es venu nous représenter Dieu et tu t'assois avec des pécheurs. Et là, Jésus a raconté trois paraboles pour leur aider à comprendre un peu mieux ce qui se passait. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce matin. Le sujet est tellement au centre du cœur de Dieu qu'il se préoccupe vraiment de chaque être humain qui est éloigné, qui est déconnecté de lui en ce moment même. Ce matin, ce qui préoccupe le cœur de Dieu au plus haut point, c'est chaque personne, qu'elle soit dans cette salle, qu'elle soit en dehors de cette salle, qu'importe où elle est sur terre, chaque être humain qui est déconnecté de lui préoccupe Dieu au plus haut point, ce matin, encore, en 2020. C'est au centre du cœur de Dieu. Ce matin, tu peux dire, non, Dieu ne doit pas m'aimer. Oh, Dieu, tu ne dois pas être content de moi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Cette semaine, regarde, je m'étais fixé comme objectif ceci, je ne l'ai pas atteint. Regarde, je suis tombé de telle manière, j'ai fait ceci. Oh, Dieu, tu dois être fatigué de moi. Et peut-être que tu as passé le temps de louange au lieu de recevoir son amour, à avoir l'impression que tu n'étais pas à la hauteur. Mais savais-tu, Dieu se préoccupait de ton cœur. Alors que tu es en train de vivre quelque chose que tu trouves difficile, tu dis, je suis dans l'église, puis je suis un hypocrite. Si tu savais ce que j'ai fait, tu ne m'aimerais pas. Des fois, on pense dire à Dieu, Seigneur, si tu savais vraiment ce que j'ai fait, tu ne m'aimerais pas. Comme si Dieu ne sait pas. Mais vous savez quoi? Jésus a raconté trois paraboles pour expliquer ce que Dieu ressent. La première parabole, on va y aller vraiment vite. Première parabole, les 99 brebis versus la brebis perdue. Et il raconte l'histoire, et c'est le mot de la fin qui est intéressant. Et le mot de la fin, il dit, « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Wow! Hey, là, Gaétan, t'es en train de me dire qu'un seul pécheur qui se repent ce matin va provoquer plus de joie dans le ciel que moi qui est en train de jeûner pour 40 jours? On va laisser Jésus répondre à ça. Je ne suis pas Dieu. Mais on va essayer de le comprendre à travers ce qu'on va étudier. Mais à quelque part, ça préoccupe réellement le cœur de Dieu. Chaque personne qui est déconnectée, qui pour lui est morte spirituellement, parce qu'il est la vie, il est le cep, et on est les serments. Donc, je n'ai pas la réponse, mais je suis certain que Jésus va nous aider à comprendre dans la troisième parabole qu'on va voir. Ensuite, la parabole de la pièce perdue. Une femme avait 10 pièces, elle en a perdu une. Voici encore une fois le mot de la fin de cette parabole-là. Je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Wow! Les anges désirent ton retour vers Dieu. Le fait d'être à nouveau connecté à Dieu. Peut-être tu es ici ce matin. Tu dis, oh, je suis un bon chrétien, je vais à l'église à tous les dimanches, j'ai lu ma Bible cette semaine. Es-tu connecté avec Dieu? Les anges veulent célébrer le fait que tu es connecté avec Dieu. Que tu viens à lui dans une relation ou que tu prends conscience de son amour pour toi. La grâce de Dieu pour vous ne s'arrête pas à la porte du salut. Pour chacun d'entre nous, la grâce de Dieu ne s'arrête pas à la porte du salut. Et je me souviens le lendemain où j'ai confié ma vie au Seigneur, ou 2 jours après, j'ai réalisé que j'ai fait une gaffe. Et je me suis dit, je n'avais pas compris la grâce de Dieu. Et je pensais que le salut, c'est une deuxième chance. Je viens de la rater. Ma deuxième chance de bien faire, je l'ai ratée. Je suis foutu! Je suis perdu! Je suis foutu! Jusqu'à ce que quelqu'un m'apporte ce verset-là, je crois que c'est de Pierre. Si nous avons péché, on a un avocat près du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède pour nous. Wow! Phew! Il y a quelque part, on a besoin de grandir dans notre compréhension parce que le salut est infiniment plus grand que ce que tu as compris jusqu'à maintenant. Alors, on continue. Ce n'est pas la fin d'avoir confié notre vie au Seigneur. Ne restons pas à la porte. Vous et moi comprenons à quel point il nous aime. Ce n'est pas la fin d'être sauvé, c'est le début. Être sauvé n'est pas la fin. Ce n'est pas le but de notre vie de dire, « Wow, je suis sauvé, je vais essayer d'en sauver le plus. » Le but n'est pas d'être sauvé, le but est d'être connecté avec Dieu. Donc ensuite, Jésus raconte la parabole du fils prodigue, qu'on peut appeler la parabole du père prodigue, la parabole des 2 fils prodigues. Parce que quelque part, c'est riche d'enseignements. Et on va essayer, dans une approche relationnelle, de comprendre ce salut-là. Parce que Jésus a apporté des histoires simples pour permettre aux gens de comprendre. Pour comprendre cette histoire-là, on a besoin de vraiment se remettre dans le contexte. C'est toujours dans le même passage, je disais tantôt Luc 15, mais c'est Luc 15, mais je vois ici que j'ai écrit Jean. Interprétez Jean comme Luc, parce que le passage est dans Luc 15, n'est-ce pas? Jean 15, qu'est-ce que c'est? Le cep et le serment. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Exactement. Donc, Jésus raconte cette histoire-là, puis cette histoire-là est vraiment, wow, c'est du poids lourd, ça. On va essayer de nous remettre dans le contexte de l'époque et de comprendre à travers les gens qui ont écouté cette histoire-là, dans leur culture. Parce que nous, on va perdre trop d'éléments si on essaie de la comprendre dans notre culture. Un homme avait 2 fils, c'est bien. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune ramassait tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Dans cette culture du premier siècle, le premier-né obtenait la double portion. Juste une petite clarification, le droit d'aînesse. On en parle dans l'Ancien Testament, on retrouve ça. C'était une notion très claire dans la culture de l'époque. Le droit d'aînesse veut dire qu'au fils aîné, c'est une double portion. Donc, si on tient compte du droit d'aînesse, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça veut dire que le fils plus vieux a reçu 2/3 et le fils prodigue a reçu 1/3. Bon, gardons ça à l'esprit, ça peut nous être utile plus tard. Mais un autre aspect important, c'est que le plus jeune demande à son père, « Donne-moi la part d'héritage. » C'est comme s'il était en train de dire, pas. Si on met ça dans la version moderne, pas. Donne-moi les clés du char, donne-moi tes cartes de crédit. Je veux rien savoir de toi. Mais donne-moi ta fortune. C'était pas, je préfère que tu sois mort parce que c'est uniquement ton argent qui m'intéresse. Quelque chose qui était absolument inacceptable à l'époque. Et encore aujourd'hui, souvent des gens vont dire, je préfère distribuer mes richesses à mes enfants avant ma mort pour que je les voie en profiter. Mais rarement, ce sont les enfants qui disent, pas, donne-moi mon héritage. Même aujourd'hui, ce n'est pas une notion qui est constante dans ce sens-là. Même mon enfant, un jour, mon plus vieux, il était venu m'aider dans la rénovation de la maison où on habite maintenant. Et je lui ai remercié d'être venu. Il dit, il n'y a pas de quoi, c'est mon héritage. Donc, je ne pouvais pas ne pas venir. En blague. Il dit, je vais prendre soin de mon héritage. OK. Donc, le fils aîné obtient 2/3, le fils cadet obtient 1/3. OK. On va ressortir quelques notions parce que je crois ce qui fait réagir Dieu, c'est ce qui est vraiment proche de son cœur. Et ce matin, chacun d'entre nous, lorsque nous nous sentons loin de Dieu, en réalité, on est près de son cœur. Dieu voit ta situation. Dieu voit tes doutes. Dieu voit le fait que tu ne te sens pas à la hauteur. Et il désire réellement te communiquer son cœur ce matin. Et on va essayer. Saint-Esprit, communique-nous le cœur de Dieu ce matin. Et il veut le faire. Le Saint-Esprit est ici. Il est là. Donc, alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Si on remet ça dans le contexte, il faut qu'on se souvienne d'une chose, que les porcs sont impurs pour le peuple juif. C'était impensable ce que ce garçon a fait. Déjà, c'était impensable, et c'est encore pire. C'est Jésus qui raconte cette histoire-là. J'imagine les gens qui écoutent se dire si c'était mon fils. Il va y goûter. Sûrement, les gens ont eu toutes sortes de pensées. Aujourd'hui, ça serait différent. Imaginez l'histoire, on l'adapte à notre contexte aujourd'hui. Un jeune homme avait un père riche. Il a demandé à son père pour son héritage. Son père lui a donné son héritage et le fils est parti. Il est allé à Chicago, il est allé en Californie, il est allé un peu partout. Il s'est défoncé au crack, à la cocaïne, il a organisé des fêtes, il est allé dans les meilleures boîtes de nuit, il a voyagé en limousine, il y avait toutes les filles qu'il voulait. Puis tout à coup, il a manqué d'argent. Tous les amis ont disparu. Après quelque temps, il s'est retrouvé itinérant. Il dormait dans des boîtes en carton. Il fouillait dans les poubelles pour manger, complètement au fond du trou, devenu littéralement un légume. Vous savez, c'est un peu comme l'émission Fugueuse. Lorsqu'on fuit la maison familiale et qu'on se retrouve entre de mauvaises mains. Aujourd'hui, ce serait cette situation-là. C'est exactement là où il s'est retrouvé. Le fils cadet avait l'intimité de son père, mais il l'a valorisé autre chose. Puis il s'est retrouvé dans une situation qui l'a complètement dépassé, où il a perdu complètement le contrôle, il n'a plus le contrôle de sa vie. Où il doit voler pour manger, il doit tricher pour manger, il doit tromper, mentir, et ainsi de suite. Il doit arnaquer ou bien fouiller dans les poubelles en espérant que tu as laissé un quart de hamburger lorsque tu es sorti du McDonald's, et ainsi de suite. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Il a perdu complètement le contrôle de sa vie. Et vous savez, quand on est dans cette situation-là, il y a seulement la personne qui se noie qui apprécie la bouée de sauvetage. Quand on va à un endroit, sur un bateau ou n'importe où, on voit les bouées de sauvetage, ça ne nous dit rien. Mais si on est en train de se noyer et qu'on voit quelqu'un nous lancer une bouée de sauvetage, wow, c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire. Tout à coup, ici, ce fils-là aurait voulu manger ce que les porcs mangent. Ça ne m'est jamais arrivé. Désirer, regarder un animal en train de manger, fafouiner, et vous savez un peu comment sont les porcs. Si vous ne savez pas, allez à la campagne. Imaginez-vous que ce qu'ils sont en train de manger, que vous puissiez souhaiter manger ça. Combien bas, combien désespéré il faudrait être pour arriver là. Je ne sais pas combien désespéré, mais c'est là qu'il était. Tout à coup, il se rappelle la bonté, la bienveillance de son père envers les ouvriers. Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Ici, je meurs de faim. Avez-vous remarqué, il ne pense plus en tant que fils. Il est en train de penser comme un serviteur, comme un ouvrier. Il est le fils à son père. Il a quitté la maison. Il a tout dépensé. Et là, en réfléchissant à la maison, il n'est pas en train de repenser à la chambre douillette, le lit moelleux, la nourriture abondante dans la maison. Il est en train de penser au bien-être des ouvriers. Pourquoi? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Et il se dit, je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Wow! Vous savez quoi? On parle du salut qui est infiniment plus grand. Souvent, c'est là qu'on s'arrête. C'est dans cette compréhension qu'on s'arrête. Ce jeune fils-là, à cause qu'il se dit, je ne mérite plus la proximité de mon père, le bien-être, la maison familiale, alors je vais lui dire, je ne mérite plus, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est malheureusement souvent la compréhension qu'on a du salut. Si tu me sauves de tes problèmes, si tu me sauves de mes problèmes plutôt, je vais te servir en échange. Ça, ce n'est pas la grâce. C'est un deal, c'est un échange de services, c'est un échange de bons procédés, parce que là, ta bénédiction devient un salaire et non une grâce. Ça, je l'appellerais la mentalité de dortoir. Seigneur, t'es merveilleux, t'es grand, t'es puissant, t'es beau, on est content, on aime Dieu. Merci Seigneur, tu m'as sorti de mes problèmes, en échange, je vais te servir, en échange de la bénédiction. On n'est plus dans la grâce. Mais ce jeune fils, à cause de ce qu'il a accompli, il est conscient qu'il a détruit l'honneur familial, qu'il a sali le nom de son père, qu'il a fait des choses qui étaient impensables, alors il se dit, je ne mérite plus. Je ne mérite plus. Et c'est ce que j'appelle la mentalité de dortoir. Je vais aller vivre dans les dortoirs. Peut-être que vous n'avez pas connu ça, mais de plus en plus, on fait appel à de la main-d'œuvre de différents autres pays l'été sur les différentes fermes au Québec pour pouvoir rentrer les récoltes. Les fermes, en particulier les fermes qui desservent le Grand Montréal au niveau des légumes et autres, c'est toutes des fermes qui demandent de la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre pour du travail manuel dans les fermes. Et... moi, j'ai visité ces fermes-là. J'avais des fermiers qui étaient mes clients à l'époque quand j'étais en électronique. Et ils ont des immenses dortoirs, en général des vieilles maisons, un peu délabrées, qu'on rafistole. Et les gens sont prêts à habiter là-dedans, nourris et tout, parce que c'est temporaire, durant un mois, deux mois de l'été, durant les récoltes. Et ça, c'est le dortoir. Et ces mêmes personnes-là qui sont prêtes à habiter là ont souvent des maisons beaucoup plus belles au pays, mais ils ont besoin d'argent pour faire vivre la famille. Ils sont prêts à supporter un peu de désagrément pour vivre dans ces endroits-là. Et lorsqu'on est dans le dortoir, on peut vivre à des kilomètres de la maison du propriétaire, du patron. On ne sait pas ce que le patron fait, les bénéfices qu'il a. On n'a pas accès à la piscine creusée du patron non plus, ni au spa, ni à quoi que ce soit. On a accès seulement à ce qui est là. Et ce fils qui est le fils du père, commence à envier l'état dans lequel étaient les employés, parce que même les employés étaient bien traités. Et il continue, il dit, c'est ce que je vais faire. Donc, il se lève, il alla vers son père, alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je viens chercher du travail. Traite-moi comme un employé. Vous savez, ce fils croyait dans la justice de son père, puisqu'il a dit auparavant, « Wow, mon père est juste, les employés chez nous sont vraiment bien traités. Et dans l'état où je suis, ce serait 100 fois mieux d'être traité comme un employé que de subir ce que je suis en train de subir. » Il croyait dans la justice de son père, et beaucoup d'entre nous, on croit dans la justice de Dieu. On se dit, « S'il y a un Dieu, on raisonne, il doit être juste. » Puis, je crois que c'est vrai, Dieu est juste. Mais quand le fils est rentré à la maison, ici on voit ce qui s'est passé. Il se dit, il prépare son discours, il vient à la maison, mais il ne s'attend pas à la réaction. Quand le fils est rentré à la maison, il a connu bien plus que la justice de son père. Et le salut est beaucoup plus grand que de juste être considéré juste. Le salut est beaucoup plus grand que d'éviter l'enfer. Le salut est beaucoup plus grand que de voir Dieu rencontrer nos besoins, que de voir Dieu renverser des impossibilités. Le salut est bien plus grand que ça, que d'avoir le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître de l'univers. De notre côté, le salut est encore plus grand que ça. Donc, ce fils rentre à la maison et il connaît bien plus que la justice de Dieu ou de son père ici. Il a connu la grâce de Dieu alors que son père a mis les bras autour de lui puis l'a serré dans ses bras. Son père a couru vers lui. Et pour la majorité de ceux qui viennent d'Afrique, vous savez que ce n'est pas quelque chose qui se fait. Quelqu'un d'honorable, quelqu'un qui a une position dans la vie, qui est respecté, ne court jamais. On n'a pas à courir, c'est les autres qui doivent venir vers nous. Et c'était une notion très claire à l'époque. Mais on voit que le père s'en fout à cause de l'amour qu'il a pour son fils. Il vient, il court. Le fils cherchait la justice, il a découvert la grâce. Et on a besoin de comprendre la différence entre les deux. Est-ce que ta vie est basée sur la justice ou bien ta vie est basée sur la grâce? Ta relation avec Dieu est basée sur la justice ou bien sur la grâce? Il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas la même chose. Parce que ce fils se dit, mon père est juste, il est équitable, je vais aller me faire embaucher comme employé. Il va me traiter d'une manière juste et puis je vais manger en échange, je vais le servir. Et trop souvent, on entre dans une relation avec Dieu de la même manière. « Wow, Seigneur, tu m'as sauvé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que te servir en échange? » Et on peut s'arrêter là sans comprendre que Dieu ne nous a pas seulement sauvés. Il nous a ressuscités en Christ pour nous avoir dans sa présence. Et il y a plein d'autres versets. Ce matin, on n'a pas le temps d'y voir, mais je veux juste faire ressortir quelques éléments importants dans cette parabole-là. Est-ce que ta vie est basée sur la justice ou bien sur la grâce? Quand tu te lèves le matin, les premières paroles qui te viennent à l'esprit, est-ce que c'est « il faut aujourd'hui que » face à ta relation avec Dieu, ou bien tu dis « wow, j'ai hâte de vivre cette journée-là avec toi, Dieu. » Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence. Même si on regarde le résultat extérieur, quelquefois, il peut se ressembler. Parce que des amoureux vont prendre plaisir à se servir l'un l'autre. Et je ne veux pas dire, je ne suis pas en train de dire, que d'être un croyant, ce n'est pas de servir Dieu ou de servir pour Dieu, et ainsi de suite. Le service a sa place, mais le service ne doit pas être la motivation. On continue. Mais le père dit à ses serviteurs, donc le fils, qu'est-ce qu'il lui dit? Si on revient au passage précédent, « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et là, il manque le bout de phrase qu'il n'a pas eu le temps de dire, parce que le bout de phrase, c'était « Prends-moi comme ton employé, je viens chercher de l'ouvrage. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-le-lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau gras qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Wow! Ce que le père vient d'accomplir ici avant même que le fils ait terminé sa plaidoirie, qu'est-ce que le fils voulait? Il voulait entrer dans un contrat avec son père. « Seigneur, papa, Dieu, sors-moi de mes problèmes, puis je vais te servir. » Ça ressemble à du déjà vu, hein? « Ah, Seigneur, si tu fais ceci pour moi, voici ce que je ferai pour toi. » Ça, on appelle ça un contrat, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce, c'est un contrat, donc c'est un salaire. Et ici, le fils essaie d'entrer dans cette relation avec son père. « Papa, je vais te servir en échange, j'aurai un toit, puis j'aurai de la nourriture. J'aurai plus besoin de désirer la nourriture des porcs. » Et son père ne l'écoute pas et lui dit, « Vite, le plus beau vêtement, mettez-lui l'anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds où il est en train de dire, « Tu pues, va prendre une douche, on va t'habiller, et ainsi de suite. » Ça pourrait ressembler à ça. Et aujourd'hui, ce que ça représente, ce que le père a fait, il l'a rétabli dans sa pleine identité, dans son plein privilège de fils. Il ne l'a pas envoyé au dortoir des employés. Alors, chers amis, si dans ta vie chrétienne, tu es encore au dortoir, c'est le temps de rentrer à la maison. C'est le temps de dire, « Seigneur, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal compris. Je t'ai dit, Seigneur, je vais te servir si tu fais ceci, si tu fais cela dans ma vie. » Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut te connecter avec lui. Il l'a rétabli dans sa pleine identité. Aujourd'hui, ça voudrait dire, le père sort sa carte de crédit platine, dit, tiens, fils, vas-y, tu as besoin de quelque chose. Ah, en passant, tiens, ça, c'est les clés de l'auto. Oui, hein, ça fait sourire. Quel père ferait ça? Wow, 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 t'es mieux d'être responsable avant. Lui donner la carte de crédit et dire, tiens, pas de problème, la marge de crédit là-dessus, c'est 50 000. Tu peux te servir. Voici l'auto. Puis en passant, je pourrais aller, on ira ensemble la semaine prochaine t'acheter une nouvelle auto. Ça ressemble à ça, ce que le père a fait. Qui est prêt à faire ça? Il n'est pas obligé de lever la main. Hein? Oui! On va écrire des conditions avant. Hein? On va écrire des conditions parce qu'on pense en tant que parent. On veut être responsable face à nos enfants. Mais ici, l'amour de Dieu est tellement grand que Jésus a utilisé ça comme illustration pour qu'on comprenne. Oui, nous, ça nous dépasse dans notre amour humain pour nos enfants. On ne serait peut-être pas prêt à aller jusque-là. Le Père l'a fait parce que Jésus voulait décrire l'amour du Père. Wow! Et c'est intéressant parce qu'au verset 24, ça dit « Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et ils commencèrent à faire la fête. » Youhouhou! Si vous vous souvenez des deux paraboles précédentes, parabole des 99 brebis et de la brebis perdue, qu'est-ce qui se passe au ciel? C'est le party. La pièce perdue, qu'est-ce qui se passe au ciel? Les anges sont dans le party aussi. Et ici, qu'est-ce que le Père fait? C'est le party qui commence. Allons-y, on va manger. Et le retour à la maison était une grande source de joie. C'est ce qu'on voit ici. Donc, le Fils qui se disait, « Papa, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Je sais ce que j'ai fait. Donne-moi un travail. Je vais aller dormir avec les employés et je vais te servir en échange. » Et le père dit, « Non. Changez son vêtement. Donnez-lui des sandales. Remettez-lui l'anneau familial, l'autorité que j'ai, vous lui remettez. Je le rétablis dans sa pleine identité, dans sa pleine position, dans son plein privilège de fils. » C'est ce que Dieu fait pour chacun de nous. C'est ce que Dieu fait. Alors, Seigneur, si tu me bénis, je vais te servir de telle et telle manière, je suis désolé, ce n'est pas la grâce. Et tant que notre position de cœur est axée vers la justice au lieu de la grâce, tu vas passer à côté de la relation que Dieu veut avec toi. Une relation tellement chaleureuse. On continue. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revient et approcha de la maison, il entendit de la musique et des chants ou des danses. Il appela les serviteurs et lui demanda, il appelle un des serviteurs, il lui dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Et le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras engraissé. » parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. C'est la fête à la maison. Ouh! Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, wow! Le fils aîné se mit en colère. Vous savez, en réalité, c'est le père qui aurait dû être en colère. Pour certains d'entre nous, quelquefois, comment on voit la situation, ayant été ce père devant ce fils prodigue qui arrive, la première chose que le père fait, premièrement, c'est « Sors! » OK, on va se parler dans le blanc des yeux. Et ensuite, de voir si le fils reçoit bien la réprimande, la punition, etc., ce qu'on voudra lui imposer, pour voir après s'il mérite la grâce, notre amour, d'être établi. Ça, c'est la justice. Et heureusement qu'on n'approche pas Dieu à cause de la justice, mais à cause de sa grâce, qu'on a accès à Dieu. C'est vraiment important. Donc, le fils aîné se met en colère, il ne veut pas rentrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Vous vous souvenez de la double portion? Du droit d'aînesse? Et vous vous souvenez d'une autre parole importante au début? Le père sépara ses biens entre ses deux fils. Et ce fils aîné commence à se plaindre à son père. « Tu ne m'as jamais rien donné. Regarde comment je t'ai servi. » Et ce que je parlais tout à l'heure dans cette position de service, d'échange de service, le grand frère était dans cette position de cœur. Je te sers, je mérite la bénédiction en échange. Et quelquefois, c'est ce qu'on pense concernant Dieu. Et ça nous met un peu jaloux lorsqu'on voit que Dieu bénit quelqu'un d'autre puis qu'on croit qu'il ne mérite pas. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Seigneur, t'es injuste. Regarde comment j'ai traîné pour toi. Comment ceci, comment cela. Et on tombe dans la mentalité du grand frère. Vous savez, il y a certaines personnes qui regardent l'Église puis ils ne voient aucune joie, aucune paix, aucun amour. Tout ce qu'ils voient, c'est le service. Seigneur, tu m'as sauvé de l'enfer, je dois te servir, servir, servir. Et le grand frère était peut-être dans cette mentalité-là, puisqu'il réagit. Le grand frère possède le 2/3 des biens, donc il possède tout. Son père ne possède rien, puisqu'il a remis ses biens à ses 2 enfants. Mais tout ce qu'il voit, c'est le service. Maintenant, il n'y a rien de mal avec le service, comme je l'ai dit tantôt. Les amoureux aiment se servir. Et j'espère que c'est votre cas, ceux qui sont mariés, ceux qui sont en relation l'un envers l'autre, que ton désir est le bien-être de ton conjoint, de ton bien-aimé, de ta conjointe, qu'importe, que c'est ton désir. Parce que lorsqu'on s'aime, on désire servir. Donc le service, je n'ai rien contre le service, c'est super. Mais lorsqu'on se concentre uniquement sur le service pour répondre aux exigences de la religion, alors on est dans la servitude. On devient dans la servitude. Et en tant que parent, on a à faire attention. Parce que lorsqu'on est dans la servitude, lorsqu'on est un simple serviteur et qu'on se dit « Seigneur, tu m'as béni, je dois te servir en échange », c'est ce qu'on est en train de communiquer à nos enfants. Et on risque quoi? Que nos enfants trouvent à l'Église simplement de la servitude. Et ne trouvent pas l'amour de Dieu. Ne trouvent pas la relation avec Dieu qui nous épanouit. On a à faire attention. On doit grandir dans cette relation-là avec Dieu. Et le salut est infiniment plus que de simplement servir Dieu. Donc, sans connaître le Père, sans connaître l'amour du Père, on fait les choses à l'envers en réalité. On sert pour gagner l'acceptation, alors que Dieu nous a déjà acceptés. Donc, c'est vraiment intéressant la parabole que Jésus apporte ici. Ce fils-là est fâché parce qu'il a servi constamment et il n'a jamais eu un chevreau, il n'a jamais rien eu. C'est ce qu'il dit, c'est sa notion. Parce qu'en réalité, tous les chevreaux lui appartiennent. En réalité, c'est lui qui a fourni le veau gras pour la fête de son frère. Alors qu'il sent une injustice à cause qu'il est dans une relation basée sur le service, sur la justice. Seigneur, bénis-moi et je vais te servir. Seigneur, bénis-moi et je vais te servir. Et Dieu, ce matin, ce qui préoccupe le cœur de Dieu, si on regarde ce chapitre-là, Luc chapitre 15 au complet, ce qui préoccupe le cœur de Dieu, c'est d'être connecté avec chacun de ses enfants. Et le Père répond, plutôt avant la réponse du Père, le Fils continue encore. Il se plaint à son Père, il considère son Père injuste, et ensuite il se tourne pour déblatérer sur son jeune frère qu'il considère qu'il ne mérite pas non plus ce qu'il est en train de recevoir. Mais quand ton Fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Et donc, il se tourne vers son père le disant, le traitant d'injuste, et il dit que lui ne mérite pas cette grâce-là parce que sa relation est basée sur la justice, sur les œuvres. Il en appelle à la justice et lui a déjà jugé la situation. C'est ce qu'on voit. Et il dit, non, mon frère ne mérite pas que tu le bénisses de cette manière-là. Et lorsque la justice est la base de notre réflexion dans notre relation avec Dieu, on ne pourra pas saisir la grâce. On va avoir de la difficulté à saisir la grâce. Et un indice en terminant, et je vais inviter peut-être le groupe musical à s'avancer tout de suite, je ne vais pas être long ce matin, mais ce matin, ce qui préoccupe le cœur de Dieu, j'espère que vous allez le saisir. Parce que ce matin, vous êtes la préoccupation de son cœur. Chacun d'entre vous qui êtes ici ce matin, qui dit, Seigneur, je te sers parce que tu m'as sauvé. Dieu t'appelle ce matin. Tu dis, ben non, je suis déjà sauvé, pasteur Gaétan. Dieu t'appelle ce matin à passer du dortoir à la grande maison familiale, la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu, recevoir son amour d'une manière libre, sans sentir qu'on doit donner en retour. Vous savez comment c'est, hein, pour certaines personnes, de rendre service aux autres, c'est tellement facile. Mais lorsque quelqu'un vous donne un cadeau ou vous donne quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On veut absolument refuser, On refuse un compliment, on refuse un cadeau, on refuse un bienfait parce qu'on se dit... Et on essaie de redonner en échange. C'est ce qu'on appelle la justice. On essaie de redonner à Dieu parce qu'on croit qu'on ne mérite pas l'énorme amour qui est en train de nous manifester. Le Père termine en disant, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Quand tu viens au Père, il ne veut pas que tu sois simplement un serviteur. Quand tu viens au Père, il ne veut pas que tu sois simplement un serviteur. Il a les anges pour le servir. Réalisez-vous ça? Il a les anges pour le servir. Il veut que vous soyez des fils et des filles dans sa présence. Que vous ayez un cœur de fils, un cœur de fille. Dieu veut premièrement votre cœur et non votre service. Je dis premièrement parce que je ne dis pas qu'il ne veut pas votre service. Alors que vous l'aimez, vous allez désirer le servir. C'est pour ça que Jean dit, c'est Dieu qui nous a aimés en premier, nous on fait juste l'aimer en retour. Tu ne pourras jamais prouver Dieu à quel point tu l'aimes pour lui montrer ton amour envers lui. C'est une réaction d'aimer Dieu en retour, de dire, Seigneur, je suis dépassé par ton amour. Seigneur, tu es en train de me dire que là, librement, tu veux me bénir. J'ai pas lu ma Bible à matin, je me suis chicané avec mes enfants ce matin. J'ai dit des gros mots quand je suis descendu dehors parce que toutes les vitres de l'auto étaient givrées. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Température et ainsi de suite. C'est toutes sortes de mots. Et là, Dieu, tu veux me bénir gratuitement alors que moi, j'ai pas été à la hauteur? Oui. C'est ce que Dieu veut faire. C'est la différence entre la grâce et la justice, le mérite. Mais Dieu veut nous transformer pour nous emmener beaucoup plus loin, justement. Donc, Dieu veut ton cœur avant ton service. Ce matin, tu peux te sentir dépassé quand tu réalises à quel point Dieu t'aime. Dieu court vers toi. Tu te sens indigne. Tu sais que tu t'es éloigné de lui, peut-être. Peut-être pour certains, tu as traîné son nom dans la boue. Tu te sens indigne. Tu sais quoi? Ça n'arrête pas Dieu. Il vient à toi. Il vient à toi. Puis il te dit... Ressens mon amour. Il veut que tu ressentes son amour parce que Dieu t'attire à lui. Ce matin, Dieu court vers toi. Et Jésus l'a clairement démontré. Le salut, c'est infiniment plus grand que d'être réconcilié, mais d'être considéré juste, d'être sauvé de l'enfer. Dieu nous a ressuscités pour nous asseoir avec lui, pour nous inviter dans sa présence comme des fils et des filles. Ce matin, peut-être certains n'avaient jamais fait la paix avec Dieu. C'est le moment de le faire. Mais ce n'est pas le premier but de mon appel. Ce matin, tu es ici. Tu es peut-être en visite. Je ne sais pas. Je ne te connais pas. Dieu t'appelle à revenir à lui, à recevoir son pardon. Mais ce matin, si c'est le cas, dis-le dans ton cœur. Seigneur, je reçois ton pardon. Seigneur, je ne réussirai jamais par mes propres efforts, par ma propre justice. J'ai compris ce que tu as enseigné ce matin, Gaétan. Reçois sa présence. Mais ce matin, je m'adresse à tous ceux qui sont encore dans le dortoir. Je m'adresse à tous ceux qui se disent, Seigneur, je veux te servir parce que tu es bon. Seigneur, tu m'as béni, alors je veux te servir. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Voulez-vous, on va tendre les mains vers lui? Un geste de foi. Un geste de foi qui veut dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Seigneur, je veux recevoir ce que tu as pour moi. Viens, Saint-Esprit, maintenant. Saint-Esprit, entoure nos cœurs. Saint-Esprit, viens maintenant briser la croûte de nos faux raisonnements, de notre justice. Viens briser cette coquille qui nous fait croire encore que j'ai une dette envers Dieu. Je dois le servir absolument. Saint-Esprit, viens briser cette coquille qui est autour de notre cœur pour que nous puissions réaliser, Seigneur, Ce qui te touche le plus, c'est quand je ne suis pas connecté avec toi. Ce qui te fait le plus réagir, c'est lorsque tu vois tes enfants qui ne sont pas reconnectés avec toi. Voulez-vous prier avec moi, Seigneur Dieu, ce matin? Je veux rompre ce contrat qui dit « Bénis-moi, je te servirai ». Ce matin, j'annule ce contrat-là avec toi. Seigneur, ce matin, je te tends les bras. Je te laisse m'entourer de ton amour. Sans réagir, sans dire « Je ne le mérite pas ». Parce que, Seigneur, je t'ai déjà donné mon cœur. Alors, Seigneur, je cesse de résister. Je cesse de m'appuyer sur mes propres efforts. Et je reçois. Inonde-moi de ton amour. Que ton amour coule au plus profond de moi-même. Que ton amour vienne me guérir. Que ton amour vienne renverser les mensonges, les fausses compréhensions. Que ton amour vienne établir dans mon cœur un fondement sur lequel je veux appuyer ma relation et ma vie avec toi. Merci Seigneur de m'accepter tel que je suis. Et Saint-Esprit en passant, viens faire taire la voix de l'ennemi. Viens m'apprendre à discerner ta voix de celle de l'ennemi, pour que je ferme l'oreille à la voix de l'ennemi qui voudra m'accuser et me condamner. Et Seigneur, je comprends qu'à tout moment, je peux te demander pardon. Pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que je t'aime. Et je veux toujours rester lié à toi à cause de ton amour. Seigneur, je veux que ce soit ce lien, ton amour infini pour moi, qui me tient à toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Seigneur, viens déverser ce matin une compréhension encore plus grande de ton salut. Seigneur, tu ne nous as pas simplement sauvés du trou noir de l'enfer. Seigneur, tu nous as invités à retourner à la maison, dans ta présence, à revertir l'identité de fils et de filles, bien-aimés, acceptés de ta part. Seigneur, bénis ton peuple, accompagne-nous cette semaine. Seigneur, continue de te révéler à nous à travers la parole. Et que, Seigneur, cette semaine, notre première réaction ne soit pas de dire, « Seigneur, si tu me bénis, je vais te servir. » Seigneur, on jette ça aux orties, on jette ça aux poubelles. Seigneur, au contraire, je t'aime. C'est pour ça que je veux te servir. Et je veux faire ce que ton cœur, ce qui est cher à ton cœur, je veux que ce soit cher à mon cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le salut est infiniment plus glorieux que cette entente, bénis-moi, je vais te servir. Et Dieu t'invite à dépasser ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais être disponible encore pour quelques minutes.